Et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer vos finances? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, François.
Oui, effectivement. Puis il y a des gens qui nous ont posé la question. Comment vous faites pour savoir qu'il y a eu 100 milliards? Je crois pas à ça, pas en tout, là. C'est facile à savoir. Statistique Canada regarde comment les gens ont épargné. Les REER, les CELI, c'est la déclaration obligatoire à l'ARC. Hein? Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et quand on fait l'accumulation de l'argent qui a été épargné, soit dans des comptes d'épargne ordinaire ou encore les CELI, les REER, c'est facile de savoir combien d'argent il s'est ramassé au cours de l'année. Et la raison est fort simple. Ça sera pas comme ça toujours, là. Parce que l'année passée, il y a eu beaucoup, beaucoup de programmes qui ont été émis et on a permis aux gens de reporter pendant au moins 6 mois leur paiement hypothécaire. Alors, pendant qu'ils n'avaient pas à payer leur hypothèque, qui s'était reporté dans le temps, eh bien, les gens ont pris cet argent-là pour vivre, peut-être dépenser un peu parce que les gens ont fait des rénovations pas mal au cours des derniers mois, là, ou encore sont gâtés en achetant des vélos ou encore des piscines puis des spas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de l'argent qui est resté à la banque. Et ça, cet argent-là, c'est facile de le comptabiliser banque par banque, savoir c'est quoi le taux d'épargne. Il n'en demeure pas moins que le taux d'endettement, même s'il a baissé, demeure quand même relativement élevé. On était à 1,78$ en 2019, et là, on se retrouve autour d'1,75$. Ça s'est amélioré, mais il reste encore de la place pour de l'amélioration. 1,75$ par dollar de disponible dans un ménage, c'est pas mal d'argent. Mais quand tu regardes l'hypothèque, ben, c'est une autre histoire.
Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça comprend ce 100 milliards-là aussi les REER, où
oui,
les gens peuvent pas utiliser dans l'immédiat. Puis ça comprend aussi le fait qu'il y a eu les reports. Donc, c'est pas 100% de l'argent dans un compte d'épargne que tu peux sortir quand tu veux non plus. Là.
Non. Ça, c'est clair. Alors donc, c'est important donc de bien comprendre le système monétaire canadien. Puis au niveau international, c'est la même affaire. Tout le monde calcule. On calcule le niveau de dette, on calcule le niveau d'épargne, on calcule le niveau au niveau des prêts hypothécaires, des prêts personnels, etc. C'est facile à calculer, c'est public. Alors les banques rendent ça public à Statistique Canada, sans dévoiler le nom de qui que ce soit quand même, là. Puis ils font le cumul de tout ça, puis une fois par mois, ben on le sait où on en est rendu.
Parfait.
Une fois par trimestre.
Olivier, bonjour.
Bonjour, ça va bien, messieurs?
Oui.
Oui.
Excellent. Moi, j'ai à peu près un 20 000 $ dans mon compte d'épargne que j'ai réussi au fil des 2 dernières années. Puis je pense que la pandémie, comme vous avez dit, m'a aidé à mettre un petit peu plus d'argent de côté. J'ai un coussin différent qui est ailleurs pour les imprévus, pour un peu s'il arrive quoi que ce soit. Je suis capable de vivre pendant au moins un an sans problème. Ça serait quoi votre recommandation? Parce qu'il traîne dans mon compte épargne, il fructifie pas, il y a rien qui se passe avec ça, puis il dort, autrement dit. Ça serait quoi votre meilleure recommandation, sachant que j'ai 2 jeunes enfants, une maison, puis j'aimerais justement pouvoir faire quelque chose avec ça, mais je sais pas quoi.
Bon, vos jeunes enfants, est-ce que le régime épargne-études est maximisé? Première chose.
Presque, oui. Pas presque. Tout à fait, mais presque, oui.
Votre CELI est-il maximisé?
J'ai pas de CELI.
Ça serait peut-être une bonne chose d'avoir un CELI, puis demander d'investir dans d'autres choses que des CPG. Il y a moyen de faire fructifier cet argent-là, d'abord à l'abri de l'impôt, et deuxièmement, ben vous seriez peut-être surpris, là, tu sais, normalement, bien placé, ça devrait doubler à tous les 7 ans. Alors que c'est pas dans un compte d'épargne avec un quart de 1% d'intérêt, c'est pas là que ça va fructifier le plus. Alors moi, je vous conseillerais peut-être de mettre ça dans un CELI, puis de parler à un planificateur financier à la banque qui va vous aider à avoir le meilleur taux d'intérêt possible.
Ben merci, monsieur.
Fait plaisir.
Parfait. Et peut-être aussi, François, là,
oui.
La semaine dernière, il y a un auditeur qui nous parlait du CELI autogéré, là, dans lequel il va acheter des titres lui-même, c'est
ouais.
Ça?
Ben
ça,
oui.
C'est-tu quelque chose que tu recommanderais? Là? Peut-être ben, pas à 100% de son 20 000, mais...
Ouais. Ben, il faut faire attention. Faut être habitué. Moi, j'en ai un, là, puis Montréal est autogéré également. Là. Mais ça, faut être habitué. Faut savoir comment ça marche.
Oui.
Alors donc, il y a moyen de moyenner. Alors, c'est là, là que l'éducation financière pour les plus jeunes est extrêmement importante. Alors, je sais qu'il y en a des jeunes de plus en plus qui s'intéressent aux investissements.
Oui.
Mais faites attention, on ne joue pas à la bourse, on investit pour le long terme. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que je viens de dire. Parce que investir en bourse, c'est pas jouer.
Non, et la meilleure toujours stratégie, chercher, souvent, chercher François, le coup,
oui.
Comme tu me dis, c'est « fais rien ».
C'est clair.
Ça comme ça.
C'est clair, parce que il y aura toujours des grosses fluctuations. Et quand tu investis dans les marchés boursiers, que ce soit dans les obligations ou encore dans des actions pures, faut diversifier son portefeuille, premièrement. C'est la meilleure chose. Et la deuxième chose, l'année passée, là, ceux qui ont paniqué lors du mois de mars, lorsqu'on a atteint un creux, hein, et en trois jours, ça va baisser de 22 %. Là, quand tu vois baisser ton REER ou ton CELI de 20 000 $ là, tu te dis « Oupplaï! » C'est justement pas là qu'il faut paniquer.
Aujourd'hui, ils peuvent pas chanter la toune d'Édith Piaf « Non, je ne regrette rien ». Eux ont des regrets. Là.
Oui, tout à fait. Jouer le marché, quand on dit « timer le marché », là, donc d'essayer de jouer dans le temps, t'es toujours, toujours à 100 % perdant. Alors, c'est là qu'il faut pas paniquer. Il y en a eu des fluctuations cette semaine. Là. Je te dis que des fois, là, quand t'as un REER de 100 000 $ qui est autogéré, là, pis que tu vois planter ça de 1 000, 1 500 dans une journée, tu te dis « wow! »
Mais vendredi, on a à peu près tout récupéré, dépendamment. Ben, là,
tout récupéré depuis le début de l'année. Là, regarde, ouais. Il y a des fluctuations, puis c'est normal qu'il y en ait.
Donc,
alors, faut être capable de gérer ses émotions quand on... Sinon, ben mettez ça dans un CPG à 2 % puis malheureusement, ben vous aurez le rendement que vous voudrez. Plus il y a de risques, plus c'est payant. Mais faites attention, je voyais tantôt investir dans les crypto-monnaies. Moi, je me tiens loin de ça comme le diable. Moi, je touche pas à ça avec une pôle de 100 pieds. Je vous dis pourquoi. Il y a trop de fluctuations. Regardez, il y a 3 semaines, Tesla a annoncé qu'elle a accepté les crypto-monnaies pour le paiement de ses véhicules Tesla.
Oui.
Cette semaine, Musk a dit, c'est fini, on arrête ça là. Ça prend trop d'énergie. Alors, on veut que Tesla soit vert parce qu'on a des véhicules verts et on va arrêter donc les crypto-monnaies. Ça a planté.
Ça a dû baisser.
Non, ça n'a pas de bon sens.
À chaque fois qu'il dit quelque chose.
La moindre petite nouvelle, il y a beaucoup de fluctuations. Si vous êtes nerveux à voir votre portefeuille baisser quand vous êtes investi en bourse et que vous investissez dans les crypto-monnaies, ben là, regarde, c'est un bel exemple, ça, de... très grosse fluctuation.
Oui, tout à fait. Donc, 11h25, on parle avec Bertrand. Salut, Bertrand.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, moi, je suis... je reçois le supplément du revenu garanti, là, le minimum.
Oui, oui.
Et puis, j'ai une tactique qui me sert énormément, c'est que je fais mettre 50 $ par mois de côté pour l'impôt au provincial et au fédéral.
Oui, mais si vous recevez du supplément de revenu garanti, vous ne payez pas d'impôt à la fin.
Oui, mais ce que c'est qui arrive, c'est quand arrive le mois de mai que j'ai mes licences à payer, les assurances, puis toute la
question. Ah, OK, vous voulez avoir un retour d'impôt.
Et voilà, c'est fait que je vis avec mon temps mensuel.
OK.
Et puis, j'ai pas de problème à la fin de l'année.
Bon, ben c'est une bonne tactique pour vous. Si ça fonctionne, tant mieux.
Ah, ça fonctionne très bien.
Ben, très bien. Merci beaucoup encore.
Merci, bonjour.
Merci, au revoir.
Francis, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est une question très technique. J'ai acheté une maison. J'ai contracté une hypothèque de 4 ans avec mon ex-conjoint.
Oui.
Au début de l'année, la maison a passé au feu. On s'est séparés, puis là, on vend le terrain, on reconstruit pas.
Mm-hmm.
La vente du terrain en tant que telle, c'est-tu imposable?
Non.
Parce que là, c'est plus un terrain avec une maison. Là. C'est pas comme si tu vendrais une maison puis un terrain.
Non. Il sera pas imposable parce qu'il faisait partie du patrimoine familial, parce que c'est là que votre maison principale était bâtie. Lorsqu'on vend notre maison, on vend le terrain avec, hein. N'oubliez pas ça.
C'est ça. Ben, ça.
Et
ça,
voilà. Donc, ça sera...
Parce que là, un article comme quoi, c'est imposé à 50%.
Non. C'est pas imposable. Un terrain, votre terrain, si c'était... le terrain de la maison qui a été démoli puis que vous désirez ne plus reconstruire, prenez votre argent puis vous allez le déclarer quand même là dans l'annexe 3 comme si vous auriez déclaré votre maison, mais ça sera pas imposable. Ça faisait partie du patrimoine familial.
OK, fait que dans un an aux impôts, on va voir que je déclare ça.
Oui, tout à fait.
Je déclare le montant que j'ai eu par moi-même parce qu'on s'est séparés, fait que la maison le montant va se splitter en deux.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Deuxième question sur la vu que c'est ça, c'est une réclamation d'assurance. On a clairé l'hypothèque, on a eu notre pénalité, ça c'est correct. Mais il m'a resté 105 000 $. Ce 105 000 $-là de retour d'assurance.
Non, il n'est pas imposant.
Il n'est pas imposant non plus. Il
y a rien d'imposant. Vous allez déclarer la vente de la maison globale. Alors, ça comprend le terrain et la maison. Elle est comme vendue, là, votre maison. Là. C'est comme si vous l'aviez vendue. Alors, votre assureur vous a payé tant. Par exemple, si vous avez au total 475 000, vous allez déclarer 475 000 dans le 2901 là, au fédéral, puis vous allez marquer le prix de départ, puis que vous êtes séparés, puis que c'est réglé, c'est tout. Vous avez été propriétaire pendant tant d'années, puis c'est réglé. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Là.
Très bien.
C'est bon?
Dans le fond, pour résumer, François, sauf quand tu génères des revenus en louant,
oui,
à une autre partie ou en faisant de la location de chalet, il n'y a pas d'imposition sur le gain.
Tout à fait. Juste pour répondre à une question qu'on vous a posée la semaine passée, là, les fameuses locations temporaires, là, c'est sur, par exemple, tu achètes une maison, tu es obligé de la louer parce que ta maison n'est pas prête, tu loues pendant 3 mois. Il n'y a pas de frais de location là-dessus. Là. C'est pas considéré comme une location, c'est considéré comme dans le prix de la vente de la maison.
Faisant partie de la vente, c'est ça.
Ça fait partie de la vente, donc c'est pas imposable, ça, cette affaire-là.
Très bien. C'était dans le cadre de l'émission Les Dessous de l'immobilier, parce qu'on voit
que je t'écoute, hein?
Oui, merci. Parce que là, il y a des acheteurs qui sont là, qui vont proposer aux vendeurs de maisons de rester dans leur maison, puis ça fait partie de la surenchère, ça fait partie de la stratégie. Là,
faites attention, par exemple, si vous restez là pendant 2 ans, là, c'est une autre paire de manches. Mais si c'est une location temporaire strictement pour vous permettre de vous chercher une maison, non, c'est pas imposable.
Parfait, on va isoler ce segment-là, je le ferai jouer demain à l'émission. Merci, François. À 11h30, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer vos finances personnelles? 514-790-9850 et 1-866-790-9850. On revient dans 3 minutes.